Alors, merci d'être venus nombreux, en particulier. Donc, on termine vraiment avec un beau public. Nous sommes donc heureux de vous accueillir pour cette dernière séance du séminaire Baudelaire 2019. Ce premier cycle nous a permis de dresser un état des lieux de l'édition de l'œuvre de Baudelaire en donnant la parole à quelques éditeurs récents du poète. Je voulais rapidement vous dire que nous nous retrouverons en septembre encore à l'ENS, on ne sait pas où, pour le séminaire 2019-2020, qui aura comme objet d'étude, alors le titre est encore provisoire, je pense, Baudelaire et son Cénacle. Et les textes issus de ce nouveau cycle seront publiés dans un numéro spécial de Studi Francesi, donc la revue d'études turinoise, qui paraîtra en 2021 pour le bicentenaire de la naissance de Baudelaire. Nous avons en outre prévu un événement consacré pour l'année prochaine aux mises en musique des poèmes de Baudelaire, qui sera animé par un chanteur et spécialiste de la mélodie française, François Leroux. Et les dates de ces manifestations seront prochainement publiées sur le site de l'ITEM. Pour ce qui en est d'aujourd'hui, nous avons le plaisir d'entendre la conférence de Monsieur Pierre Brunel, professeur émérite de Sorbonne Université et, depuis 2015, membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Je ne vais pas le décrire longtemps son CV. Mais je dis quand même, auteur d'une soixantaine d'ouvrages, il en a consacré trois, je crois, à Baudelaire. Les fleurs du mal, entre fleurir et défleurir, aux éditions du Temps en 1898. Baudelaire et les puits de magie, six essais sur Baudelaire et la poésie moderne, chez José Corti, en 2002. Et Baudelaire antique et moderne, aux presses de l'Université Paris-Sorbonne, en 2007. Pierre Brunel nous parlera de l'édition posthume des Fleurs du Mal, parue chez Michel Lévy en décembre 1868, qui a eu un rôle considérable dans la postérité de la poésie de Baudelaire dans la seconde moitié du XIXe siècle. Mais avant de lui céder la parole, Aurélien nous présentera un tableau retrouvé de Léopold Flammin, sur lequel apparaît Baudelaire. Je te
Oui,
laisse.
voilà. Oui, alors nous sommes très heureux d'avoir dans le public ce matin Hervé Lochard, président de l'Association des Amis d'Arsène Lupin, et Alain Tourneux, président de l'Association internationale des Amis de Rimbaud. Monsieur Lochard a fait il y a quelque temps une belle découverte et nous lui sommes très reconnaissants de nous avoir communiqué ces éléments. Alors, cette découverte, c'est un tableau de Léopold Flammant sur lequel Baudelaire est représenté. Alors, avant de montrer le tableau, je fais durer un peu le plaisir. Je vais vous dire rapidement un mot sur Flammant. Donc, il est né en 1831, il y a 10 ans de moins que Baudelaire. Donc, il est d'abord connu comme un graveur talentueux et prolifique. Il a collaboré de manière assidue à des revues comme L'Artiste, La Gazette des Beaux-Arts. Il a illustré de nombreux ouvrages, Le Décaméron, une édition de L'Année terrible de Victor Hugo, Les nouvelles odes de Funambulesque de Banville, les œuvres complètes de Coppée. À côté de son œuvre de graveur, il a une œuvre de dessinateur. Voici de lui un portrait de Mérion, conservé au département des arts graphiques du Louvre. C'est un dessin au crayon noir et à l'estompe, avec des rehauts de blanc. Le catalogue du Louvre indique que ce portrait a été exécuté au domicile de Mérion, 81 rue Saint-Jacques, donc tout près, le 11 mai 1958, la veille de l'internement de Mérion à Charenton. Alors, parmi les ouvrages que Flammant a illustrés, il y a de nombreux ouvrages sur Paris. L'un des tout premiers s'intitule Paris qui s'en va, Paris qui vient, édité chez Alfred Cadart en 1859-1860. On y trouve notamment une représentation de la rue de la Vieille Lanterne, vous l'avez tous croisée, où Nerval s'est pendu. On trouve aussi dans ce volume une gravure intitulée Bureau du Sans-le-Sou, impasse Clopin. Voilà. C'est une scène de la vie de Bohème, avec un personnage couché, un autre assis sur une chaise estropiée, au mur une tête de mort et des inscriptions entre la devise utopiste et le Memento Mori. Voilà. Tout a une fin, hormis celle du poète. Se plaindre, c'est perdre du temps. On reconnaît Baudelaire à gauche, fumant la pipe. Le sang, le sou, c'est un petit journal publié du 16 novembre 54 au 13 mai 55. Corrigez-moi si je me trompe, mais nous n'avons pas connaissance d'une collaboration de Baudelaire à ce journal. Hein. Néanmoins, j'ai vérifié, la collection du sang le sou conservée par la BNF est lacunaire. Il y manque les numéros 11 à 13. Ce serait intéressant de vérifier le contenu de ces numéros. Le directeur du journal, c'était un poète et chansonnier, Constant Arnoux. C'est le personnage couché au centre de la gravure. Arnoux est entre autres l'auteur d'un recueil intitulé « Les chants de la mansarde » 1851. J'ai parcouru rapidement ce recueil. C'est un recueil de poésie engagée qui plaide la cause du peuple, vraiment l'inspiration de 1848. Donc cette gravure, elle est connue des baudelairiens. Elle figure dans l'album Baudelaire de la Pléiade. Elle a été reprise dans « Passion Baudelaire » de Claude Pichois et Jean-Paul Avis chez Textuel en 2003 et dans le livre de Jean-Didier Wagner et François Sestor, Les Bohèmes 1840-1870, chez Champvallon en 2012. Et voilà le tableau maintenant. Donc c'est une huile sur panneau. Le visage de Baudelaire est plus net que sur la gravure. C'est une œuvre d'assez petite dimension, je crois. D'accord. Ah ben oui, alors c'est quand même un tableau de belle taille. Voilà. Je crois qu'il faut peut-être dire un mot sur la signature. Donc la signature, elle apparaît au verso. Léopold Flamand fait quitte. Apparemment, on aurait une autre signature en dessous, c'est ça. On ne voit pas bien, mais voilà. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous dire peut-être comment vous l'avez découvert ou si... D'accord. D'accord. Très bien.
Et j'avais aucune invitation du moment où j'ai fêté
l'album Baudelaire de la Pléiade. Oui, on va remontrer la gravure, voilà. Oui. Oui, tout à fait. Le visage sur la gravure est allongé. Sur le tableau, effectivement, il est plus expressif, plus jeune, en effet.
De quelle époque ?
Mais c'est un petit peu la question. Parce que
vous avez les cheveux.
Voilà. La gravure date de 59-60. Le tableau a l'air d'être antérieur. Hein. Oui. Oui, oui, donc on peut penser que c'est...
Si, le tableau est original.
C'est possible aussi, mais le document en lui-même mérite tout l'intérêt.
Oui, c'est plus original. Difficile
à dire, mais c'est vrai qu'il est plus
jeune. Il a l'air assez... Il faut savoir aussi que très jeune, il avait quand même un peu de barbe. Il y a c'est moins connu, mais Baudelaire avait un peu de barbe. Alors là, il n'y a pas de barbe. Non. Donc, je ne sais pas si je dirais que c'est aussi jeune qu'on pense. Mais bon, on laisse la.
Mais on va le laisser. Hein.
Voilà, après. On le laisse après. Et puis, il y aura une discussion après, donc on peut reprendre. Okay. Mais on vous invite alors à.
Alors. On la place. Il y a un parallèle dans cette position, cette posture de Baudelaire. À savoir que le musée Le Fabre de Montpellier a cette même posture où on voit justement Baudelaire tenant la pipe, tenant dans sa main, et avec une réflexion.
D'accord.
En dehors du stade de la posture de Baudelaire au musée Fabre de Montpellier, il a bien entendu un écritoire marqué, une petite table où il réfléchit, justement, donc sa pipe. Mais cette posture est une caricature qui est très intéressante, je trouve. Bravo.
Oui, il faudrait.
On a des hypothèses sur les personnages qui sont
de consorts.
Alors, sans aucune preuve, hein, ouais. J'ai vu que nous n'avons pas personne à droite de l'univers qui est éventuellement de malade.
Alors, justement, bah oui, on voit.
Laquelle ?
La gauche.
Ah, d'accord.
le personnage assis, effectivement, là, pour être tombé.
À Courbet.
Mais bon, c'est sans
faute. Parce que, bien à Courbet, il n'y en a pas beaucoup.
Oui, ça dépend des époques. Mais c'est vrai aussi qu'il y a une iconographie baudelairienne. Un Baudelaire toujours à l'écart et pensif.
Oui, ce serait intéressant de travailler sur les occurrences, effectivement.
Oui, c'est magnifique, en tout cas. Merci de l'avoir présenté.
Merci vous.
Un grand pas dans cette recherche. C'est vraiment plaisir. Est-ce que vous pouvez montrer au musée de Favre de Montpellier?
Oui.
Non, mais justement, ça vous intéresse énormément. Parce que la posture est tout à fait significative.
Oui, oui, il faut prolonger l'étude sur ce tableau. Ouais, même profiter de 2021 pour l'exposer, si vous voulez.
Avec éventuellement un arrondissement qui permettrait de voir des petits détails, mais aussi.
Oui, du moment qu'on dit non, pour la baigne, il y aura aussi l'air.
Et ça rejoint finalement l'homme à la pipe que l'on retrouve, bien entendu, dans le fleur de Marie. Nous sommes d'accord.
Et on va continuer tout à l'heure. Maintenant, merci.
Oui, alors je vais laisser. Comment je vais faire? On commence par l'édition 1868. Il y a deux.
Pour voir oui, ça. Oui. Ah ben, sinon je les avais rapportés.
Ah
si
d'accord. Je les ai. Oui, oui, je les ai.
Si vous voulez le faire.
Non, il faut se mettre ici. Sinon, je m'en occupe. Comme vous préférez. Alors, affichage. Une seule page. Dimension. On est en plein écran. Oui, on est en plein écran. C'est la dimension qui est un peu. Qu'est-ce qui se passe? Ah, voilà. Pardon, c'est vraiment. Ah, voilà, on peut dire.
Alors, écoutez, je suis très ému de me trouver parmi vous ce matin. Voilà, je me sens presque 60 ans en arrière dans cette maison et je dois vous faire une confidence qui me peine beaucoup. Nous sommes dans la salle Paul Celan. Celan était à l'école normale en même temps que moi. Je ne l'ai jamais connu, je n'ai jamais entendu parler de lui et c'est donc bien longtemps après que j'ai découvert son passage si important par la rue d'Ulm. Voilà, Celan n'est pas inséparable de Baudelaire, et si vous avez lu les textes de Bonnefoy, vous savez que le rapprochement a été fait en particulier par lui, mais c'est d'une toute autre manière que je dois aborder le problème choisi pour la séance d'aujourd'hui, c'est-à-dire le problème, ou plutôt les problèmes posés par l'édition posthume de décembre 1868, comme l'a rappelé avec précision Andrea, tout à l'heure. Alors, ce qui aurait été le mieux, c'est que j'arrive avec cette édition en main, et c'est presque le cas, mais pas tout à fait. J'avais dans ma bibliothèque, je m'en suis aperçu, une édition de 1886, non plus chez Michel Lévy, mais chez Kalman Lévy, celui qui se trouve gentiment appelé Caïman, dans une lettre que j'ai consultée. Et je n'ai pas eu accès directement au volume publié en décembre 1868. J'ai cru pendant longtemps l'avoir fait, et puis je me suis trompé à la bibliothèque de l'Institut. C'est un volume de 1869, hein, avec l'indication deuxième édition, bien sûr, chez Michel Lévy. En comparant cette édition de 1869 et celle que je possède, je me suis aperçu que c'était à peu près toujours identiques, jusque dans les erreurs. Vous donnez un exemple pour la préface, le 1 de la page est en bas et ensuite pour les 2 et 3 c'est en haut. C'est la même chose en 1886. J'ai le volume sous les yeux. La première page est bien œuvre complète de Charles Baudelaire, 1, Les Fleurs du Mal, car il ne faut pas l'oublier, ce n'était pas à l'origine un volume isolé, Les Fleurs du Mal, mais le tome 1 des œuvres complètes, publié d'ailleurs un tout petit peu après, autant que je me souvienne, le tome 2. Hein. Ensuite, nous avons l'indication édition définitive augmentée d'un grand nombre de poèmes nouveaux. C'est ce qui figure dans les éditions précédentes. Le portrait par Narja, ou Narjo plutôt, Narjo. Hein. Si je lis la page de couverture, Les Fleurs du Mal par Charles Baudelaire, précédé d'une notice par Théophile Gautier. Ici, l'indication nouvelle édition, CL, Carbon Lévy, au lieu de ML, Michel Lévy. Voilà. Et tout le reste, je peux le garantir, est absolument à l'identique. Je ne m'étais jamais penché sur ce problème. Mon intérêt pour l'édition de 68 a été éveillé il y a quelque temps par un article que j'avais en préparation où je faisais place en particulier au célèbre poème « Recueillement » qu'on ne trouve que dans cette troisième édition, malgré des publications antérieures en revue. Et j'ai été frappé en faisant mon travail par ce que j'ai considéré comme une sorte d'appel et de réponse. L'appel, c'est la lettre de Sainte-Beuve qui a été placée en appendice de cette édition de 1868, où, en gros, et pour parler simplement, Sainte-Beuve reproche à Baudelaire d'être trop triste, de ne pas faire appel suffisamment à la consolation, justement. Et il m'a semblé que ce poème, Recueillement, avait quelque chose de consolateur, comme d'ailleurs deux autres poèmes de Baudelaire que j'ai cités dans mon texte. Voilà quel a été mon point de départ. Ce n'était pas du tout celui d'un travail érudit, c'était encore moins celui d'une conférence, le mot est beaucoup trop fort, ce sera tout au plus une causerie. Je reviens de Chine et je m'étais penché sur le volume que vient de paraître Lucrezio, 15 causeries en Chine, hein, donc le mot causerie est bien plus indiqué quand on ne se sent pas complètement maître du sujet. D'ailleurs, il vaut beaucoup mieux ne pas être maître du sujet, me semble-t-il, car c'est beaucoup plus des questions que je voudrais poser, en attendant de vous, d'ailleurs, si vous le voulez bien, des réponses. J'ai déjà écrit à André Guyot sur ce point, à Andrea également, et nous avons tous besoin d'une collaboration pour aborder de manière nouvelle ce problème. Il se trouve que j'ai fait une lecture de...
Oui, je vais simplement ajouter que Baudelaire et Sainte-Beuve ne s'entendaient pas, puisque Sainte-Beuve n'est pas allé à l'enterrement de Baudelaire. Il n'avait jamais rien écrit sur lui, il n'avait jamais préparé aucun dossier, et c'était quelques années après qu'il a préparé une petite coupure de presse sur lui. C'est-à-dire qu'il n'a jamais répondu de sa décision. Jamais présenté. Pourtant, Baudelaire a fait des choses extraordinaires. Pour être publié avec honneur et passion par Sainte-Beuve, il est allé le voir plusieurs fois en lui apportant des petits gâteaux et surtout du pain d'épices parce que Sainte-Beuve était très gourmand. Mais malgré le pain d'épices et malgré sa gentillesse, Sainte-Beuve n'a jamais publié un article sur Baudelaire. Voilà, donc ça prouve bien qu'il s'en allait.
Oui, je ne sais pas si vous n'êtes pas trop sévère là.
Je suis réaliste.
c'est un problème qu'il faudrait étudier. Pardon. C'est un problème qu'il faudrait étudier de près. D'après les indications que j'ai recueillies, il semble tout de même que ce dossier qui a été réuni pour l'édition de 1868 correspondait à beaucoup d'égards aux vœux de Baudelaire lui-même et qu'on a quelques indications à cet égard. Y compris la lettre de Sainte-Beuve qui date de 1857. Voilà. Et puis alors, si vous me permettez d'ajouter un détail un peu cru, hein. Si Sainte-Beuve n'est pas allé à l'enterrement de Baudelaire, ça c'est la vérité, c'est qu'il était malade, hein. Il y a une lettre très très curieuse que j'ai trouvée, où il est indiqué qu'il avait une sonde, hein, il avait un grave problème urinaire, et c'est d'ailleurs une lettre extrêmement plaisante, car on demande dans cette lettre s'il a trop usé de l'instrument ou si au contraire il a eu tort de ne pas en user suffisamment. Voilà, donc, relation à mon avis plus complexe, mais problème que je retrouve ici, parce que on peut se demander si ces témoignages qui ont été placés dans l'édition de 1868 correspondent à un vœu de Baudelaire ou pas. J'ai lu des éléments pour, il peut y avoir des éléments contre. Voilà, alors la lecture que j'ai faite hier soir est celle d'un livre que j'avais dans ma bibliothèque et que je n'avais pas consulté, c'est-à-dire le livre de Jean Moureau, Baudelaire et les fleurs du mal, publié aux presses universitaires de Nancy, où Jean Moureau était professeur, en 1989. Et voici comment il nous présente l'édition de 1868. Première indication, œuvre complète. Oui, pardon. Il se réfère à une édition que plusieurs parmi vous connaissent sans doute et que je n'ai pas consultée. J'ai eu tort, je m'en suis aperçu trop tard, c'est-à-dire les œuvres complètes par Jacques Crépé, 19 volumes, Paris, édition Connard, de 1922 à 1953, 1922 étant le premier volume, c'est-à-dire Les Fleurs du Mal. Alors, à propos de cette édition de Jacques Crépé, Jean Moureau écrit ceci: son seul défaut, elle reproduit pour Les Fleurs du Mal les textes et la disposition de l'édition posthume de 1868, comprenant des pièces que Baudelaire n'a jamais eu l'intention de faire figurer dans son recueil. Voilà. Alors, même question, hein? Même question, car nous allons trouver, je vais essayer d'en présenter tout à l'heure, des éléments qui laissent à penser que Baudelaire n'est pas complètement étranger à ce qui a été mis dans cette édition de 1868, et puis d'autres qui sont de l'avis contraire. Quant à l'autre indication, alors c'est page 209 dans le même livre, base, écrit Jean Moureau, édition de 1868. Indispensable, toutefois, en raison de l'étendue et de la sûreté de l'information, malgré ses défauts. Voilà. Alors, nous allons essayer de voir un peu comment se présentent les choses. Et peut-être pour être aussi simple que possible, vais-je vous relire la très courte notice de Claude Pichois et Jean-Paul Avis dans le dictionnaire Baudelaire de 2002. Cette édition posthume constitue le premier tome des œuvres complètes de Charles Baudelaire, publié chez Michel Lévy Frère, prix du volume 3 francs. Les poèmes sont précédés d'une longue notice de Gautier sur la vie et l'œuvre de Baudelaire. La mention « édition définitive » figure à la couverture. En fait, l'adjectif n'est pas légitime. Bien entendu, Baudelaire pensait à une troisième édition enrichie de nouveaux poèmes, mais on n'a jamais retrouvé l'exemplaire qu'il aurait préparé pour l'édition. Les éditeurs étaient Charles Asselineau, et surtout pour ce volume Banville. À la fin du volume, en appendice, un appendice groupe, selon le vœu de Baudelaire, des lettres et des témoignages. Si c'est le vœu de Baudelaire, il y a bien Sainte-Beuve, hein. Comme les pièces condamnées en 1857 ne pouvaient pas être reproduites, Malassis et d'autres de ses confrères ont publié trois tirages d'un complément aux Fleurs du Mal de Charles Baudelaire, édition Michel Lévy 1869, imprimé à Bruxelles. Je reviendrai sur ce dernier point tout à l'heure, qui est tout à fait singulier. Est-ce que, Laurence, on ne pourrait pas montrer déjà l'image de l'édition?
Oui, tout à fait. Alors, l'édition de 1868 est accessible sur Gallica, hein, vous devez le savoir, donc il suffit de se connecter et on a vraiment toutes les pages, tout le descriptif de la couverture. Voilà, donc j'ai fait quelques captures d'images. Ça, c'est la page de faux titre, donc qui indique bien qu'on est dans les œuvres complètes. Le portrait de Baudelaire. Et la page de titre, qui est bien Michel Lévy Frères, 1868. C'est une édition en 7 tomes qui va de 1868 à 1870. Voilà, donc là, c'est le portrait est sous une feuille transparente. Et j'ai reproduit après la table des matières que tu peux vouloir commenter. Voilà, avec donc la liste de tous les poèmes reproduits.
Voilà, alors ce que je vais faire très simplement, c'est dérouler le volume. Hein. Le premier poème, dans tous les cas, le poème au lecteur, est intitulé ici « Préface ». La très très longue première section, plus longue que jamais, est « Split et idéal ». Ensuite viennent les tableaux parisiens. Ensuite le vin. Ensuite « Fleur du mal ». Ensuite « Révolte ». Et enfin la mort, c'est-à-dire que c'est exactement le même plan que l'édition de 1861, la deuxième édition. Quant à l'appendice, il comprend d'abord un petit texte de Baudelaire lui-même, et puis plusieurs textes que j'énumère très rapidement, si j'ai le temps je reviendrai sur eux tout à l'heure, un texte d'Édouard Thierry, un texte de Frédéric Dulabon, un texte de Barbey d'Envilly, un texte de Charles Asselineau, la lettre de Sainte-Beuve, une lettre de Monsieur le Marquis de Custine, une lettre de Émile Deschamps et, pour terminer, un poème du même Émile Deschamps avant la table des matières que vous avez vue tout à l'heure.
Encore une question. Oui.
Si, non, je veux bien.
Simplement faire. Jules Clay, qui était l'imprimeur de Baudelaire, oui. Qui était en plus l'imprimeur de Victor Hugo, le principal imprimeur de Victor Hugo. Et Jules Clay, lorsqu'il a pris sa retraite, il s'est fait éditer un livre à Châteaudun, secrètement. Donc ce livre ne figure pas à l'ABN, je l'ai sous les yeux là. Et sous forme de vers, il dit tous ses secrets concernant tous les auteurs qu'il a connus, dont Baudelaire et Victor Hugo. Donc, c'est une petite parenthèse pour illustrer le débat. Merci.
Très, très intéressant. Merci beaucoup.
Un livre secret. Édité à 50 exemplaires.
On va vous le voler. Je vais vous compléter de la bonheur.
Voilà. Alors, si vous voulez bien, nous allons nous poser une question, à mon avis, fondamentale. Quel était le projet de Baudelaire? Et là, j'ai beaucoup flotté avant de m'apercevoir d'une chose, c'est qu'il y a eu un projet de troisième édition antérieur, en quelque sorte, à ce que va devenir ce projet de troisième édition. Je vous renvoie pour cela à une lettre à Julien Lemaire, datée du 9 août 1865, où Baudelaire place en numéro 1 Fleur du mal, augmentée de plusieurs pièces et de plusieurs articles et lettres relatifs à la première et à la seconde édition, Théophile Gautier, Sainte-Beuve, Édouard Thierry, Asselineau, d'Orvilly, Custine, Deschamps, etc. Tout cela mis à la fin, comme a fait Sainte-Beuve, pris comme modèle, pour Joseph Delorme, ceci dans la réédition de Vie, Poésie et Pensée de Joseph Delorme en 1861. Tout cela, ajoute Baudelaire, est en partie chez ma mère, chez Malassis et chez Maître Ancel. J'en retrouverai certainement beaucoup. Observez que ce livre est dédié à Théophile Gautier et que la préface à côté de la dédicace ferait un singulier effet. Nous sommes le 9 août 1865 et il m'a semblé qu'il y avait un projet antérieur et que justement on a tort quelquefois de mélanger les deux. Il y a des lettres de Baudelaire où il parle d'une nouvelle édition des Fleurs du Mal en préparation, qu'il juge d'ailleurs presque imminente, et qui n'est pas du tout celle qui va suivre la lettre que je viens de dire. Je vous renvoie pour cela à une lettre à Victor Hugo du 17 décembre 1863. Baudelaire est à ce moment-là à Paris, entre deux séjours à Bruxelles. Il loge dans l'appartement du 22 rue d'Amsterdam. Et vous trouvez cette lettre dans l'édition de la correspondance de la Pléiade, tome 2, page 338-340. Je cite. « Je me propose de vous envoyer prochainement les Fleurs du Mal encore augmentées, avec le spleen de Paris, destiné à leur servir de pendant. » Alors, ce n'est pas ce que va être l'édition de 1868. À mon avis, ce n'est pas seulement l'édition de 1861. Encore augmentée, ça veut dire qu'il y a eu encore une modification. C'est un projet, et un projet qui se manifeste de manière claire et surprenante en 1863. Vous vous rappelez sans doute que, après le procès des Fleurs du Mal et après différentes mésaventures, l'éditeur Poulet-Malassis a fait faillite le 12 novembre 1862 et s'est réfugié à Bruxelles. Le 13 janvier 1863, Baudelaire signe avec un autre éditeur dont on parle fort peu, Hetzel, un contrat pour les Fleurs du Mal et pour les petits poèmes en prose. Et à mon avis, cette future édition qu'annonce Baudelaire à Hugo le 17 décembre 1863, c'est le projet de cette édition Hetzel qui n'a jamais été réalisée. Vous seriez d'accord sur ce point ? Voilà. Quant à l'édition de 1868, le grand problème qui se pose est évidemment de savoir quelle part a été celle de Baudelaire, y a-t-il eu une part de Baudelaire, comment a-t-il su ou non su l'évolution du projet, bien entendu en ignorant forcément la fin puisqu'il était décédé le 31 août 1867. Alors je ne vais pas entrer dans les détails ici, ce serait ennuyeux, mais on trouve un événement, en quelque sorte, qui m'a semblé intéressant et que je soumets à votre attention et à vos remarques. C'est une lettre de Poulet-Malassis à Asselineau, datée du 7 juillet 1866, donc relativement tard, hein. Témoignage sur le départ à Paris de Baudelaire et sur un dîner qu'il aurait partagé avec Baudelaire la veille et où il aurait été question de ce projet. J'ai avec moi deux volumes que vous connaissez tous, les lettres de Poulet-Malassis à Charles Asselineau dans l'édition de Christophe Carrère et le volume plus ancien de Jean Richet et Marcel Ruff, Les derniers mois de Charles Baudelaire et la publication posthume de ses œuvres. Alors, c'est dans celui-ci que je vais prendre la lettre en question. Voilà, donc je vous le rappelle, une lettre de Poulet-Malassis à Asselineau, datée du 7 juillet 1966. Nous avons dîné ensemble la veille de son départ dans ma chambre où il n'était pas venu depuis la veille de sa grande crise. Il a distingué les objets de curiosité, là je passe. Hein. Je lui ai dit qu'il fallait mettre sous presse l'édition définitive des Fleurs du Mal toute prête. Il m'a fait signe que oui. L'impression qui m'est restée d'ailleurs de cette conversation, et je crois vous l'avoir décrit dans une lettre que vous avez dû recevoir sous le timbre de Paris seulement, et qu'il sera difficile, sinon impossible, de de faire agréer à Baudelaire une publication de ses œuvres tant qu'il gardera le degré d'intelligence qu'il a présentement. L'espoir de revenir à la pleine santé spirituelle est certes en lui. Il a fait des efforts au moment de partir pour écrire la liste des petites dettes qu'il laissait en copiant une note qu'il en avait adressée. Voilà. Autant que je me souvienne, mais c'est beaucoup plus connu, nous avons aussi des témoignages où Baudelaire aurait indiqué que dans sa malle se trouvait le travail qu'il avait fait pour cette nouvelle édition des Fleurs du Mal. Alors c'est là que je me pose une question difficile à laquelle il est probablement impossible de répondre. Est-ce que c'était le projet de 63 dans un nouvel état? Est-ce que c'était quelque chose qui déjà préparait cette future édition de 1868? Point d'interrogation. Ce qui est sûr et certain, semble-t-il, en tout cas au jour où nous sommes, c'est que ce qui était dans la valise n'a jamais été retrouvé. Si vous permettez, ici, je fais un petit ajout. Voilà. Cette fois-ci, beaucoup plus tard, hein, une lettre de Poulet-Malassis à Slidot du 13 août 1867, hein, 15 jours à peu près avant la mort de Baudelaire. Toute ma correspondance avec Baudelaire, environ 300 lettres, est classée. Peu d'entre elles sont imprimables, les affaires d'argent y tiennent trop de place et il y est question souvent de trop tristes affaires. Cependant, il y aura à prendre et à citer dans ses écritures. J'ai toutes les lettres importantes écrites à Baudelaire à propos des Fleurs du Bal. Très belle lettre de Sainte-Beuve, c'est donc certainement celle qui a été reprise. Lettre ou billet de Custine, Flaubert, Gachon, de Bolène. Baudelaire avait l'intention formelle de joindre quelques-uns de ses témoignages et la lettre de Sainte-Beuve, surtout, à l'édition définitive des Fleurs du Mal. Il y aurait à voir dans quelles limites cela sera à faire. Cette fois-ci, nous sommes bel et bien dans la préparation du projet de 1868 et vous voyez que Baudelaire aurait pensé lui-même à cette sorte de dossier qui figurera finalement dans l'édition que nous connaissons. Si vous voulez bien, et très très simplement, presque scolairement, un rappel avec un prolongement sur les éditions et les éditeurs des Fleurs du Mal. 1857, bien sûr, mise en vente le 21 juin 1857, un recueil de 100 pièces chez Poulet-Malassis et de Broise, alors à Paris. 1861, 126 pièces, avec le portrait de l'auteur dessiné et gravé par Braquemont, mise en vente début février 1861, toujours chez le même éditeur. Décembre 1868, donc, œuvre complète, tome 1, cette fois-ci chez Michel Lévy Frère, je reviendrai sur le choix de l'éditeur tout à l'heure, éditeur à Paris. 151 poèmes, dont tout à l'heure nous étudierons l'origine. Et puis en juillet 1869, c'est moins connu, un complément, hein, sous ce titre très étrange et à mon avis trompeur, hein, complément aux Fleurs du Mal de Charles Baudelaire, Michel Lévy, 1869, mais tout ça c'est comme si c'était le titre, Bruxelles, chez tous les libraires, 1869. Et vous devinez derrière ce chez tous les libraires, Poulet-Malassis lui-même installé à Bruxelles. Ce complément aux Fleurs du Mal se justifie par... je ne dirais pas la querelle, mais en tout cas le différend qui a existé entre Poulet-Malassis et Michel Lévy au sujet des épaves. Un certain nombre de poèmes des épaves vont être repris dans l'édition de 1868, d'autres non, et après l'édition de 1868, paraît donc ce complément qui va nous redonner les pièces des épaves qui n'ont pas été reprises dans cette troisième édition des Fleurs du Mal et présentées de la manière suivante. Hein. Bien sûr, on peut s'y attendre, les six pièces condamnées, Lesbos, Femme damnée, Delphine et Hippolyte, le Léthé, à celle qui est droguée, les bijoux, les métamorphoses du vampire. Ces pièces qui n'ont pas été intégrées dans l'édition de 1868, que Crépé, en revanche, je crois, réintègre dans son édition citée tout à l'heure, et d'autres aussi. Mais ce n'est que le A de ces compléments. Il y a un B et un C. Dans le B, deux poèmes venus aussi des épaves, mais tirés cette fois-ci de la section « Galanterie », les promesses d'un visage et le monstre. Et puis, en C, trois poèmes, toujours des épaves, mais venus de la section bouffonnerie, sur les débuts d'Amina Boschetti, à Eugène Fromentin, un cabinet folâtre. Voilà comment se présente à peu près... des choses. Alors, conscient du fait qu'il est impossible de tout traiter, je voudrais dire un mot des éditeurs ici. Quand on lit la correspondance de Baudelaire ou quand on lit les correspondances de Poulet-Malassis, Asselineau et les autres, on est frappé par le fait qu'un assez grand nombre de noms finalement apparaissent. Hein. Il n'y a pas seulement... Poulet-Malassis et Michel Lévy, il y a eu Hetzel, vous l'avez vu tout à l'heure, on trouve quelque part Garnier, qui n'est pas le Garnier d'aujourd'hui, et d'autres encore. Hein. Ce qui apparaît, me semble-t-il, avec une certaine clarté, c'est que quand Baudelaire a été consulté, autant qu'il pouvait l'être, bien sûr, dans l'état qui était le sien, il ne donnait pas toujours le même avis, mais si on en croit le témoignage de Poulet-Malassis, il aurait accepté la solution Michel Lévy qui a été adoptée finalement, pour des raisons diverses, hein, financières et autres, et surtout, bien sûr, le problème Bruxelles-Paris. Alors, j'en viens peut-être à deux problèmes. Donc, entre l'édition de 1861 et l'édition de 1868, publication des épaves et très peu de temps après, publication des nouvelles fleurs du bal dans le Pardas contemporain. Et il faut tenir compte de ces deux éléments qui sont évidemment extrêmement importants. Problème des épaves, elles ne pouvaient pas être toutes reprises, hein, et en tout cas pas les poèmes condamnés par la justice en 1857. Il y avait aussi des réticences, et c'est le moins qu'on puisse dire, de la part de Poulet-Malassis. Hein, lui-même d'ailleurs flotte d'une opinion à l'autre, et par conséquent, petit nombre seulement de ces épaves ont été reprises. Alors, nous avions préparé un très beau tableau de concordance entre les éditions des Fleurs du Mal. J'ai trouvé cela trois fois, et malheureusement la troisième fois trop tardivement. On trouve ça dans l'édition de John Jackson, en livre de poche. On trouve ça dans l'édition d'Antoine Adam. Et malheureusement, la meilleure, la plus lisible, est dans l'édition Crépé-Blin, tome 1. C'est celle que j'ai sous les yeux ici, et je vais la reprendre, si vous voulez, pour faire un état à peu près clair de, du problème. Je vous rappelle que dans l'édition posthume, il y a des poèmes isolés, en quelque sorte, dans l'édition, et puis il y a un groupement très important. Problème isolé, j'y reviendrai tout à l'heure. Poème isolé, j'y reviendrai tout à l'heure. C'est le premier, le poème 16, à Théodore de Banville. Autre poème isolé, qui, lui, vient des Épaves, le poème 61, vers pour le portrait de Monsieur Honoré Daumier. On en arrive ensuite à, au gros ensemble, qui est toujours dans la section Spinée idéale, qui va du poème 85 au poème 104. Hein. Et si vous voulez, je vais les énumérer ici en indiquant à chaque fois ce qui ne figure pas dans les deux autres tableaux, l'origine. Poème 85, le calumet de paix imité de Longfellow. Celui-ci ne se trouve ni dans les Épaves, ni dans le Parnasse contemporain. Poème 86, la prière d'un païen, même chose. Poème 87, le couvercle, il se trouve dans les Nouvelles Fleurs du Mal, c'est-à-dire dans la publication du Parnasse contemporain en 1866. Poème 88, l'imprévu, il vient des Épaves. Poème 89, l'examen de minuit, il vient des Nouvelles Fleurs du Mal.
Oui, il est pelisible,
il est pelisible, semble-t-il.
On voit un petit peu.
Vous voyez quelque chose?
Voilà. Et en tout cas, il n'indique pas l'origine des poèmes. C'est pour ça que je la redis.
Précisément les numéros.
Alors, nous en sommes.
C'est la troisième colonne.
Voilà. Nous en sommes à 89, hein, l'examen de minuit, publié donc dans les Nouvelles Fleurs du Mal, Parnasse contemporain. Poème 90, Madrigal triste, publié dans les Nouvelles Fleurs du Mal, Parnasse contemporain. 91, l'avertisseur, même chose. Hein. Poème 92, à une malabarèse, il figure et dans les Épaves et dans les Nouvelles Fleurs du Mal. Poème 93, la voix, même chose, dans les deux. Poème 94, hymne, même chose, figure dans les deux. Figure 95, le rebelle, uniquement dans le Parnasse contemporain, Nouvelle Fleur du Mal. Poème 96, les yeux de Berthe, se trouvent et dans les Épaves et dans les Nouvelles Fleurs du Mal. Poème 97, le jet d'eau, se trouve également dans les deux. Poème 98, la rançon, se trouve également dans les deux. Poème 99, bien loin d'ici, uniquement dans le Parnasse contemporain, Nouvelle Fleur du Mal. Poème 100, le coucher du soleil romantique, vient des Épaves. Poème 101, sur le tas sans prison d'Eugène de la Croix, vient uniquement des Épaves. Poème 102, le gouffre, vient lui uniquement des Nouvelles Fleurs du Mal, Parnasse contemporain. Poème 103, les plaintes d'un Icare, vient uniquement du Parnasse contemporain, Nouvelles Fleurs du Mal. Recueillement 104, vient uniquement du Parnasse contemporain, Nouvelles Fleurs du Mal. Bien entendu, je ne fais pas allusion ici à des publications en revue de, isolées qui existent bien sûr pour un très grand nombre de ces poèmes. Autant que je me souvienne, et j'espère que ma mémoire ne me trahira pas, il y a eu en 1866 dans le Parnasse contemporain deux publications, un gros ensemble au mois de mars et un poème isolé à la fin juin. Ce poème isolé, tardivement présenté dans le Parnasse contemporain, et Le couvercle, le poème devenu 87 dans notre édition de 1868. Alors, on ne peut pas ne pas s'interroger sur le problème des Épaves. Il y a le différent d'éditeur que j'ai dit tout à l'heure, il y a les questions d'argent, il y a ceci, il y a cela. Mais il y a aussi l'ambiguïté de la réaction de Baudelaire au sujet de ces Épaves. D'après les témoignages qu'on peut recueillir, et je me fie toujours à ce qu'on lit dans les lettres de Poulet-Malassis ou dans les lettres d'Asselineau, il y a des moments où Baudelaire crachait sur ses propres épaves. Il y a d'autres moments où au contraire, il les acceptait. Ce n'est pas une chose simple, ce n'est pas une simple question de justice, de public, de publication à Bruxelles, de publication à Paris, mais quel aurait été le point de vue final de Baudelaire pour l'insertion d'épaves dans l'édition finale des Fleurs du Mal? Ça, je dois l'avouer, je crois que nous ne le savons pas. Pour ce qui est maintenant des nouvelles Fleurs du Mal publiées dans le Parnasse contemporain, donc cinquième livraison le 31 mars 1866 et poème isolé à la fin juin, voilà le couvercle, hein. Poème qui avait été publié déjà dans le Boulevard le 11 janvier 1862. Cela fait donc 15 pièces venues de ces nouvelles Fleurs du Mal et reprises dans l'édition de 1868, plus une, hein, donc 16 en tout. Est-ce qu'on a encore quelque chose à projeter? Monsieur, oui, monsieur.
Je voudrais simplement rajouter un petit détail très très intéressant sur les rajouts que vous signalez. C'est Cathulmadès avec son épouse Judith Gautier,
oui,
qui s'occupait du Parnasse contemporain. Donc, le rapprochement entre la troisième édition du Fleurs du Mal de 68 avec le grand texte de Gautier qui fait l'approche donc, du Fleurs du Mal, et sa fille et son époux Cathulmadès qui avait publié ces rajouts que vous signalez dans le Parnasse contemporain.
Alors, vous avez absolument raison, hein, c'est à la demande de Cathulmadès, voilà, que ces poèmes ont été publiés dans le Parnasse contemporain.
Voilà, voilà. Parce que sa fille, voilà, Judith Gautier, étant la fille du père, bien entendu,
voilà, exactement.
Le grand opuscule dans le Fleurs du Mal, ça sent.
Exactement. Voilà, Cathulmadès que Baudelaire voyait d'ailleurs à Paris quand il revenait, il habitait du côté de la place de Clichy, autant que je me souvienne. Voilà, alors on pourrait peut-être en venir, je ne suis pas trop long là, encore un petit moment, on pourrait peut-être en venir au texte complémentaire, qui correspond donc, semble-t-il, à une volonté de Baudelaire. Encore une fois, si on avait vu ça mal, on y verrait plus clair. Et là, comme je l'avais dit dans les temps qui précèdent, j'appelle à l'aide, car il y a parmi vous une remarquable spécialiste de Gautier, Rodia Cervoni, et puis il y a ce volume tout à fait magistral d'André Guyot dans la collection Mémoire de la critique, où ces textes ont été repris, commentés, annotés. Donc on a là un ensemble déjà constitué qui est véritablement considérable. Rappel, si vous le voulez bien, d'abord en ce qui concerne la préface de Gautier, ensuite je céderai la parole à Aurélia. Ce n'est pas exactement, me semble-t-il, mais vous confirmerez ce que je dis, la reprise à l'identique du texte de Gautier publié dans l'Univers illustré du 7 mars au 18 avril 1868. Mais c'est ce texte avec des modifications. Voilà, vous êtes d'accord sur
oui,
ce point?
Il a repris l'embryon qu'il a développé, effectivement.
Voilà, parce que ce n'est pas toujours ce qu'on lit. Hein. Trop souvent, on considère que c'est exactement la même chose.
Non, oui. Pas tout à fait.
Mais pas tout à fait. Je signale à votre attention ou à votre mémoire un ouvrage critique intéressant aussi sur cette question, Baudelaire par Gautier, ouvrage réalisé par Claude-Marie Séninger avec la collaboration de Loïs Cassandra Amrich, publié chez Klingsic en 1986. Claude-Marie Séninger, que je n'ai pas connu, était la sœur de Charles Séninger, lui bien connu des étudiants de mon époque qui préparait ardemment à l'agrégation et aux autres concours, hein, et qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps. Voilà, elle fait bien le départ, elle aussi, dans ce volume, entre les deux textes. Alors j'ai pris des notes sur l'ensemble de cette préface, je n'y reviens pas, mais j'aimerais beaucoup que Corélia nous donne une image rapide de ce texte.
Je n'ai pas tout en tête, mais bon, ce qui est frappant dans la préface de Gautier, c'est cette théorie de la décadence sur laquelle Bourget reviendra ensuite. Voilà. Alors, la décadence, c'est une obsession de Philippe Gautier. Bien sûr, il reprend des thèmes qui étaient présents chez Baudelaire. Baudelaire lui-même a pris à partie les détracteurs de la littérature de décadence dans l'Assemblée nationale en 1854. Mais la décadence, elle poursuit Gautier depuis longtemps. À l'époque, il publie La Comédie de la Mort en 1838. Il est attaqué par Alfred Cuvillier-Fleury, qui est le critique littéraire du Journal des Débats, comme un auteur de décadence. Voilà. Ses attaques.
Il était critiqué parce qu'il était feuilletoniste, c'est pour ça.
Oh oui, d'accord, la Comédie de la Mort, quand même, le langage de la Comédie de la Mort, avec ses métaphores qui préfigurent déjà le poème de la Charonne, il suscite des réactions. Passionné. Voilà. On retrouve aussi ces attaques à l'époque des Monts et Canets. Donc, c'est un motif sur lequel Gautier revient souvent. Donc il y a, moi, j'aimerais souligner la dimension polémique de la préface de Gautier en 1868. Voilà, c'est pas uniquement un texte poétique, une broderie sur le coucher du soleil, le crépuscule, c'est un texte très engagé sur l'esthétique romantique. Voilà, romantique et poétique.
Mais alors, j'ai lu quelque part un point d'accord justement entre Gautier et Baudelaire sur ce point, une sorte de défense du romantisme chez l'un et chez l'autre. C'était à propos du coucher du soleil romantique.
Il y a un accord très fort entre Baudelaire et Gautier. Enfin, on le ressent à plusieurs reprises dans leurs échanges. Et lorsque Baudelaire dédie les fleurs du mal au poète impeccable, c'est aussi une réponse à aux attaques contre Gautier. Il faut toujours garder le contexte à l'esprit lorsqu'on analyse les textes de Baudelaire.
Alors, ce qui est frappant tout de même, c'est que cette préface, elle est, me semble-t-il, beaucoup plus pour l'ensemble de la publication que pour le seul volume Les Fleurs du Mal. Et là, Gautier traite très très largement l'ensemble de l'œuvre de Baudelaire.
La poésie de la ville, oui, bien sûr. Il recouvre l'intégralité de la poésie de Baudelaire et de Baudelaire.
Surtout la poésie.
Oui.
D'autre part, on le disait, c'est André, je pense, le premier qui l'avait remarqué. Moi, j'ai hérité cette idée de André, on en a parlé par téléphone, en effet, que c'est une préface, et même la disposition est présentée comme une préface de l'ensemble.
C'est ça, tout à fait.
Et pas, comme on dit souvent, une préface au fur du mal.
Tout à fait. Ça, c'est absolument, absolument frappant.
C'est curieux, d'autre part, qu'ils ont dit, je lisais dans la table de matière, qu'ils ont, donc le titre, comme il est présenté dans la table de matière, n'est pas préface, mais Charles Baudelaire, parce qu'il y avait la préface qui est au lecteur.
Oui.
Alors qu'il est préface dans le titre est préface, je pense, dans le...
Dans l'édition, dans le volume, oui.
Ils ont dû
changer. À l'intérieur, oui. Oui, monsieur.
Oui, je remercie. Souligner l'intérêt de cette préface, parce que, une parenthèse que je vais voir, c'est bien ce que je vais vous dire. C'est, à mon avis, la plus intéressante préface de la langue française. Pourquoi? Si nous prenons la page 50, est-ce que des personnes ici ont les fleurs du mal en main?
Quelle édition?
Le 68. 68. Est-ce que quelqu'un a les fleurs du mal 68 qui vous secoue? Personne.
Quelle page?
Page 50. Le secret des fleurs du mal s'explique. Page 50, je vous lis, puisque personne n'a porté de fleurs du mal. Je vous lis. La curiosité fut excitée au plus haut point par ces mystérieuses histoires si mathématiquement fantastiques qui se déduisent avec des fleurs. formule d'algèbre. Et donc, les expositions ressemblent à des enquêtes judiciaires menées par le magistrat le plus perspicace et le plus subtil. Gautier nous ouvre le chemin secret des plans d'images. C'est une parenthèse que je ne peux pas développer.
Très bien.
Parce que je prépare un film là-dessus, mais bon, ça justifie une puissance et ça justifie en même temps le fait que sa fille, Judith, avec son ex-époux, Catherine Mendès, ait publié des textes de Baudelaire dans le Parnasse contemporain. Voilà. Je ferme la parenthèse. Au revoir,
merci. Merci beaucoup. Alors, nous avons ensuite la reprise d'article justificatif de 1857. C'est le titre sous lequel avait été constitué un recueil par Baudelaire lui-même, recueil imprimé à 100 exemplaires par la veuve d'Ondé Dupri pour les juges, hein, au moment du procès. C'est précédé de quelques lignes de Baudelaire lui-même, et je fais un rappel très bref, hein. Ce sont quatre textes. Celui d'Édouard Thierry, qui avait été administrateur, non, qui sera, oui, si, si, qui a été administrateur général de la Comédie-Française d'octobre 1859 à septembre 1870. L'article a été coupé, mais la partie qui a été publiée concerne précisément Baudelaire. Ensuite vient un article favorable aux fleurs du mal de Frédéric Dulamont, qui a vécu de 1825 à 1880, article publié le 25 juillet 1857 dans Le Présent et repris. Nous avons ensuite le texte de Barbet d'Orvilly. Une lettre datée du 24 juillet 1857, plus son article en quatre parties. Je ne me rappelle pas si cet article avait été publié ou pas. Non, refusé, hein. Et nous avons... alors, est-ce que c'est... L'article d'Asselineau... Oui, lui aussi date donc de 1857, hein, publié dans la Revue Française le 1er septembre 1857. Voilà, article en cinq parties. Alors, moins directement lié au... l'action judiciaire, mais toujours datée de 1857, la lettre de Sainte-Beuve. J'ai cité cette lettre dans mon article récent, avec les points de suspension, parce que j'ignorais le mois précis. Hein, dans l'édition de 68, il y a le 20 1857, et c'est dans Mémoire de la critique que j'ai découvert donc, que c'était le 20 juillet 1857. Hein, je vous renvoie au livre d'André Guyot, page 175-177, avec des notes très, très précises. Le texte d'Astoff Custine, là aussi... oui, alors, question à André, ici. Hein. Dans Mémoire de la critique, c'est... un autre texte de Custine hein, qui a été retenu. Voilà ce que j'ai noté. Hein, dans Mémoire de la critique, page 249, André Guyot a retenu la lettre de Custine à Barbet d'Orvilly du mardi 25 août 1857, mais non celle-ci, celle qui figure dans l'édition 68 des Fleurs du Mal, à Baudelaire du 16 août 1857. Hein, elles sont d'ailleurs complémentaires. Et enfin, Émile Deschamps, une sorte de porte-parole du romantisme, hein, avec un petit texte, une lettre du 14 juillet 1857, et puis un poème sur les fleurs du mal à quelques censeurs, publié dans Le Présent le 1er septembre 1857. Une remarque, si vous le voulez bien, maintenant, sur ceux dont on fait les patrons de cette dernière édition. Vous avez entendu tout à l'heure, dans un texte que j'ai cité, Asselineau, Bonville. Alors, je crois qu'il faut poser la question, Bonville. A-t-il pris une part aussi importante à cette édition? Je ne le sais pas, on ne le sait peut-être pas. Une chose est apparente, en tout cas, c'est qu'il y a dans cette édition le poème à Théodore de Bonville. C'est le premier des nouveaux poèmes intégrés dans cette édition. Un poème qui pose un sérieux problème, hein, qui est celui de sa date. Si vous prenez l'édition ici, c'est le poème 16, hein, je vous rappelle, le tout premier des nouveaux poèmes intégrés. Si vous prenez l'édition, vous voyez ceci. À Théodore de Banville, et en dessous, la date 1842. Or, il existe un document qui prouve que l'envoi de ce poème à Théodore de Bonville a été fait, autant que je me souviens, en 1844 ou même 1845. Hein? Voilà. Alors, pourquoi cette nouvelle date ici? Est-ce une erreur de Bonville lui-même? Bonville a-t-il suivi de près cette édition? On n'en sait trop rien. Je voudrais relire peut-être ce poème, parce qu'il pose lui-même des problèmes. Hein. Je dirais tout de suite une différence sensible entre les deux quatrains et les deux tercets ayant d'ailleurs soulevé un certain nombre de questions mythologiques. Vous avez empoigné les crins de la déesse, c'est-à-dire la beauté, avec un tel poignet qu'on vous eût pris à voir et cet air de maîtrise et ce beau nonchaloir pour un jeune ruffian terrassant sa maîtresse. L'œil clair et plein du feu de la précocité, vous avez prélassé votre orgueil d'architecte dans des constructions dont l'audace correcte fait voir quelle sera votre maturité. L'audace correcte, j'aurais été Bonville, j'aurais pas été tellement content. Hein. Poète, notre sang nous fuit par chaque pore. Est-ce que par hasard la robe du centaure, qui changeait toute veine en funèbre ruisseau, était teinte trois fois dans les baves subtiles de ces vindicatifs et monstrueux reptiles que le petit Hercule étranglait au berceau? Alors là, c'est bel et bien l'entrée dans le Baudelaire des fleurs du mal, hein, c'est-à-dire que cette tunique du centaure Nessus revêtu par Hercule et aboutissant à la mort d'Hercule, c'est bien la tunique que celui qui s'appelle dans l'un des poèmes, je reviendrai sur ce point dans un instant, poète maudit, a conscience d'avoir sur les épaules. C'est Claude Pichois, je crois, qui s'étonne du rapprochement entre la robe du centaure Nessus et puis les serpents que, au berceau, en quelque sorte, Hercule avait étouffé. Mais je crois que l'idée n'est pas si inintéressante que cela, hein, c'est-à-dire que le sang du centaure Nessus serait aussi le sang de ces serpents. Et il y a dans les poèmes, et en particulier dans certains des poèmes de l'édition de 1868, maintes présences du serpent, de la vipère, etc. Oui, monsieur.
Une petite question simple. Baudelaire avait quel âge en 1842?
Eh bien, il avait 21 ans.
21 ans. Je vous remercie.
Voilà. Alors, remarque au passage, parce qu'elle est quand même relativement importante, dans cette édition de 1868, on trouve plusieurs poèmes de date ancienne. Hein. C'est le cas de celui-ci, mais il y en a d'autres, avec parfois d'ailleurs des questions qui se posent, parce qu'on a des doutes. Dans mes fiches, il y a des éléments à cet égard que je ne prendrai pas le soin de rappeler devant vous, mais c'est un problème que pose cette édition, hein, indiscutablement. Voilà. Pour ce qui est maintenant d'Asselineau, alors on sait qu'il existait un lien très fort entre Baudelaire et Asselineau. Le coucher du soleil romantique auquel je faisais allusion tout à l'heure, devenu poème 100 dans cette édition de 1868 et qui était aussi le prologue des épaves, avait été composé en 1862 pour les mélanges tirés d'une petite bibliothèque romantique de Charles Asselineau, mélanges qui n'ont pas paru tout de suite, qui ont été publiés seulement en décembre 1866. Et la part prise par Asselineau à cette édition est certainement forte et, à mon avis, plus forte que celle de Bonville, qui pouvait être plutôt une sorte de patronage honorifique. Je vous renvoie sur ce point à leur correspondance hein, dans les deux volumes que j'ai signalés tout à l'heure, qui sont très utiles à cet égard. Voilà, écoutez, j'en ai pratiquement terminé. Ce qui est sûr, c'est que cette édition pose beaucoup de problèmes et que chaque détail mérite un examen attentif. Je faisais allusion à cela tout à l'heure. Le poème intitulé « Sépulture » dans les deux premières éditions devient « Sépulture d'un poète maudit » dans la troisième édition, avec apparition de cette expression dont on a fait ensuite le sort, auquel on a fait par la suite le sort que vous savez. Voilà, je vous remercie. Merci pour votre patience. Alors, très bonne question. Hein, très bonne question. Je me suis posé cette question matérielle toute simple. Existe-t-il aujourd'hui une reprise de l'édition de 1868? Je ne crois pas. Hein, non, voilà. En revanche, fin 19e et encore début 20e, on est favorable à cette édition. Hein, le volume que j'ai en main en 1886 le prouve. Le sort fait à cette édition par Jacques Crépé le prouve, hein, en 1922.
Et donc, on abandonne cette édition après 1922
ou... Alors, elle est de plus en plus critiquée, voilà. Hein, c'est ce qui me semble. Elle est de plus en plus critiquée parce qu'on a des doutes sur la paternité de Baudelaire, en quelque sorte. Hein,
les six pièces condamnées ont été réintégrées en 1949, je crois. Avant.
Ça circulait quand même.
Alors, l'histoire du procès a été terminée en 1949. Hein. Oui, c'est ça.
Et dans la Pléiade, comment est-elle présentée l'édition de 68,
Alors,
à la fin, on n'a pas dit...
Dans la plupart des éditions, vous avez, je dirais, bon, le plus souvent, l'édition de 1861, hein, et ensuite, vous avez pièces tirées de l'édition de 1868, vous avez les épaves, vous avez pièces tirées de l'édition de 1868, alors quand ça figure dans les épaves, on ne le reprend pas dans l'édition de... C'est le plus fréquent. Hein. Avec des bizarreries. Je vous en signale une au passage qui m'a frappé dans l'édition de Jackson. Le poème à Théodore de Banville n'est pas placé dans les ajouts de l'édition de 1868, mais à la fin dans poème d'hiver ou quelque chose comme ça.
Ouais. Il y a aussi d'autres questions, évidemment, ce qui est inépuisable.
Certes.
D'une part, il y a ce qu'on avait dit au début, je me souviens, de nos séminaires, c'est-à-dire que même l'édition de 1861, qui est celle qu'aujourd'hui est adoptée forcément, hein, je dirais, mais elle-même pose des problèmes, parce que Baudelaire et Robert Cranché, quand seulement voilà, les poèmes condamnés, il manque évidemment des poèmes que Baudelaire a publiés ensuite. Donc on est face au fait qu'on n'a pas une édition définitive de Fleur du Mal et on ne l'aura jamais.
On ne l'aura jamais. Donc,
c'est aussi la tentation qui pousse parfois à aller. Ensuite, il y a une autre question qui est celle. Moi, je ne me suis pas penché encore, mais des variantes aussi qui existent entre l'édition de 1868 et les autres éditions, c'est-à-dire les textes ont aussi été retouchés.
Comme mais par qui?
Oui, voilà. C'est le cas,
toujours
par exemple,
dans le Spleen de Paris.
Bien vu pour le Spleen de Paris. Alors là, le problème est encore plus grave parce qu'en n'ayant pas l'édition du Spleen de Paris en volume, des poèmes en prose de Baudelaire, évidemment, jusqu'à il y a 50 ans, non, jusqu'il y a aujourd'hui, je dirais jusqu'à nous, jusqu'à Steinmetz, Jean-Louis Steinmetz,
on reprenait,
c'était l'édition posthume qui était adoptée. Alors pour la Fleur du Mal, évidemment, on a d'autres possibilités, mais. Donc, c'est une autre question encore qui se pose. Oui, c'est vrai que c'est. Mais je voulais aussi citer le fait que, justement, on a ici une spécialiste, finalement, de ces questions, qui est Catherine Delon. Désolée de te.
Je prépare un recueil de lettres et de témoignages sur Baudelaire qui commence à partir du moment où Baudelaire est aphasique, le 31 mars 66, jusqu'après la mort de Madame Oblique. Alors, ce sont des documents essentiellement que j'ai trouvés dans les archives anciennes. Ce sont aussi des documents qui sont quelquefois dans des collections privées, qui n'étaient pas complètement connus, et j'ai intégré, enfin c'est un peu mieux à l'accepter, j'ai intégré des lettres que Jacques Crépé a pu publier dans des supports qui ne sont pas toujours accessibles, qui sont quelquefois numérisés, mais pas toujours non plus. Et donc ça fait un ensemble un peu disparate. J'ai aussi, je pense, intégré également quelques articles qui sont difficiles parce que, par exemple, pour l'abeille de Fontainebleau, il y a un article qui est introuvable, je l'ai trouvé dans les archives anciennes, mais pour l'instant, il est introuvable parce qu'on ne peut le trouver nulle part. Ça sera peut-être le cas quand ça sera bien numérisé, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Voilà, donc c'est un ensemble de témoignages qui traitent de la maladie, de toutes sortes de choses, de la maladie de Baudelaire, les problèmes financiers de Baudelaire, les problèmes financiers de Madame Oblique, les relations entre Madame Oblique et Archimondeau, etc. Alors, concernant l'édition 68, j'ai rien trouvé, enfin, je ne pense pas apporter quelque chose de très très surprenant. Il y a simplement des lettres entre Asselineau, Madame Oblique, parce que Madame Oblique est retournée à Honfleur, c'est elle qui possède, qui détient à Honfleur tous les paquets de Baudelaire. Ancel aussi est chargé de transmettre les papiers qu'il peut avoir, etc. Donc, ce sont des correspondances très, très, je dirais pas communes, mais enfin, voilà. Par contre, il y a une indication intéressante, je crois que la date n'est pas connue, pour les poèmes en prose. Poulet Malassi écrit qu'il y avait 70 poèmes en prose faits. Alors, je ne sais pas d'où il tient ça. Hein.
70,
il dit qu'il y a 70 poèmes en prose qui sont faits. Alors, est-ce que c'est quelque chose que Baudelaire lui aurait dit avant de est-ce que Poulet Malassi a lui-même vu cette lettre? Je ne sais pas, mais enfin, c'est passé.
Oui, parce que dans sa lettre, Baudelaire dit parfois.
Il dit parfois qu'il a plus de matériel prêt que la réalité. Voilà, donc en fait, ce sont des détails un peu ténus, mais je pense que si on reprend l'ensemble de ces détails, il y a matière peut-être à poursuivre des recherches.
Non, c'est tout à fait intéressant, puisque vous la nommez au passage, Madame Oblique a eu son petit rôle à jouer dans l'édition de 1868. Elle voulait supprimer le reniement de Saint-Pierre. Hein. Et voilà, Asselineau s'y est opposé, elle a fini par céder. Oui.
Non, elle a cédé
assez
facilement. Elle n'est pas intervenue autrement.
Oui.
Vous vouliez prendre la parole?
Oui, j'ai juste une petite question. J'aimerais bien savoir si, à votre avis, justement pour cette chronologie des publications autorisées ou non autorisées, une digitalisation, c'est, disons, le format ADK, justement en dehors d'un scan sur Gallica, merci beaucoup de montrer, mais justement pour mieux peut-être pouvoir immédiatement aussi, préparer les élections, etc.
Ça serait souhaitable.
Ah oui, oui. Il y a un projet qui se dessine. Voilà, dans la continuité de l'édition de la correspondance de Baudelaire, on aimerait bien éditer l'œuvre complète de Baudelaire.
Je pense que
qu'on y est.
Non. Nous avons un projet de digitalisation d'édition numérique déjà
de la correspondance. Voilà.
Et dans la continuité, on veut.
On aimerait bien, d'ici 5 ans, 6 ans, peut-être un peu plus, à arriver à une édition numérique des œuvres complètes. Voilà.
On va l'attendre.
Oui, parce que Gallica permet juste
de voir le document. C'est très bien fait, Gallica. Hein. C'est remarquable comme reproduction, mais bien sûr, ça n'est pas, il n'y a pas d'apparat critique.
Bon, il n'y a pas non plus la possibilité de confronter quand même
non. toutes les versions. Non, bien sûr. Non, absolument. Ça demande des manipulations avec d'autres fichiers, c'est très compliqué.
D'autres questions ? Je peux intervenir sur quelques points que Pierre a soulevés. Je pense qu'il n'y a pas de réponse hein, sur la plupart des questions importantes et passionnantes que tu as soulevées. D'abord, les petites choses, le rôle de Banville et la date de 1842, je crois me souvenir que c'est l'année où ils se sont rencontrés.
Oui.
Bon, j'ai l'impression qu'il y a comme un hommage à leur premier moment de rencontre, ce qui jette un doute de plus.
Voilà, donc Banville aurait pu indiquer cette date, effectivement, oui.
Je crois me souvenir, mais je ne suis pas très sûr, qu'il y a aussi un poème de Banville sur Baudelaire.
Absolument, je l'ai là, je l'ai copié.
Qui date de 42.
Oui, oui.
Donc, il est allé vers la coïncidence du poème qu'il avait écrit, lui, et du moment de leur rencontre. Alors, l'autre chose que je me souviens avant de revenir sur la grande question hypothétique de reconstitution de ce qu'aurait voulu faire Baudelaire, c'est sur la question des annexes des textes que Baudelaire il y aurait peut-être des recherches à faire pour voir si d'autres ont fait ça à l'époque. C'est pas très courant.
Oui, c'est pas très courant. Hein.
Il y en a un qui l'a fait, en tout cas c'est Sainte-Beuve, et à plusieurs reprises, pour la dernière édition de Volupté, il y a un recueil de presse. Et il publie aussi des lettres avec toujours cet amalgame article et lettre. Donc c'est ce que fait Baudelaire, c'est ce qu'il aura. Ça, on est sûr qu'il aura.
Je fais une parenthèse. Parler de Volupté de Sainte-Beuve, mais on n'est pas sûr que ce soit lui qui l'ait vraiment écrit. Alors, je vous le dis, je fais une parenthèse.
Alors, une chose est certaine, monsieur, c'est que.
Je prends les paris.
Une chose est certaine, c'est que c'était le livre que Baudelaire lisait le plus. Hein.
Il l'a attribué à Sainte-Beuve.
Voilà.
C'est attribué, en fait, clair.
C'est merveilleux.
C'est clair, c'est surtout qu'il y a deux préfaces. En plus, se poser la question. Un livre qui a deux préfaces, c'est encore un double doute.
Si je peux revenir sur la grande question que vous soulevez. Bon, il y a 1857, 1861, 1868, et l'idée, un projet de Baudelaire entre
les deux. Ah oui, ça je crois.
Il me semble quand même que les deux choses que tu as distinguées peuvent correspondre à deux étapes du même projet.
Oui. Ce qui paraît surprenant, quand il l'annonce à Victor Hugo, c'est qu'on a l'impression que c'est imminent. Hein.
Alors, je crois que dans ce que voulait ajouter Baudelaire, il n'y a que deux certitudes, me semble-t-il. Les annexes en question.
Oui, puis c'était une justification de
1957. Hein. Polémique, il remet les articles justifiés.
Ça, c'est
il me semble que c'est une quasi-certitude que ce qui s'est appelé dans le Parnasse contemporain, nouvelle fleur du mal, était, ne serait-ce qu'à cause de cet intitulé, destiné à cette
tradition. C'est ça.
En dehors de ça, qu'est-ce qu'on peut dire comme certitude?
Pas grand-chose.
On pourrait faire une division symétrique de l'hypothèse d'une inclusion quasi certaine des nouvelles fleurs du mal, d'une hypothèse
d'exclusion des épars. Mais on ne peut pas, puisqu'il y a des poèmes qui sont à la fois dans les nouvelles fleurs ouvrages et dans les épars. C'est presque dommage, parce que sinon on pouvait donner ce sens à épars, où il y a des poèmes condamnés. Dans les épars, il y a ce que Baudelaire n'aurait pas voulu republier dans une troisième édition. Mais le recoupement, pour quand même un certain nombre de poèmes, qui sont à la fois dans les épars, dans les nouvelles fleurs ouvrages et dans les épars, fait que tout est bon.
J'ai retrouvé le poème de Banville à Charles Baudelaire, donc dans les stalactites en 1846. Hein. Ô poète, il le faut, honorons la matière, mais ne l'honorons pas d'une amitié grossière, et gardons d'offenser, pour des plaisirs trop courts, l'amour qui se souvient et se venge toujours. Notre âme est trop souvent comme cette bacchante, que, dans une attitude aimable et provocante, le satyre caresse et retient dans ses bras, rouge de ses désirs et de son embarras, la tête renversée et les lèvres mi-closes, et que l'enfant amour châtie avec des roses. C'est daté de mars 42. En tout cas, dans les cariatides. C'est un poème de... il est dans les stalactites en 1846, et ce sont les cariatides qui datent de 1842. Donc ça pourrait être aussi une justification de cette date.
Donc on peut dire entre parenthèses, c'est pas le chef-d'œuvre
de Baudelaire. Non.
Et peut-être que le sonnet de Baudelaire n'est pas non plus le plus beau des sonnets de Baudelaire.
Non.
Il y a comme cette intrusion Banville qui vient gêner
une sorte
de paradigme intouchable qui est Spinelliade. Il plaît, parce que là, l'initiative lui revient. Il met.
Oui, ça c'est sûr. Hein. Ça c'est sûr.
Mal discret.
D'autres réactions, d'autres remarques, je vous en prie.
Une dernière pour ne pas vouloir trop insister. Il y a une chose qui me dérange dans cette édition, que les formes de l'expliquer de 68, qui me dérange vraiment. Personne n'a porté les peurs de moi beaucoup, donc. Bon, qui est sa condition, page 144. Je te donne Sévère, afin que Simonon aborde heureusement aux époques lointaines et fait rêver un soir des cervelles humaines, vaisseau favorisé par un grand Aquilon. Comment se fait-il que pour la dernière édition posthume, c'est-à-dire mort, un an après, nous trouvions un vers, page 144, ils disent « Je te donne ces vers afin que Simonon aborde heureusement aux époques lointaines et fait rêver un soir les cervelles humaines, vaisseau favorisé par un grand Aquilon. » Baudelaire aurait-il accepté ceci de son vivant? Je le pose réellement la question. Voilà. J'ai la réponse.
Oui.
On va plus tard. Qui est très claire. C'est un plaisir partagé. Mais le problème se pose. J'attire justement votre attention, votre bien des mains, sur ce détail. Page 144.
Vous nous faites languir, là.
Il le fait exprès.
Alors, je tenais à ajouter à monsieur une précision qui l'intéressera. Je vous ai dit tout à l'heure que Voltaire n'était pas de Sainte-Beuve, puisqu'il y avait deux préfaces très différentes en caractère et un esprit très différent. Sainte-Beuve et Voltaire ne sont jamais entendus entre eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu ensemble la même maîtresse. J'ai retrouvé une trace de correspondance qui est un témoignage sur ça. Ils ont eu la même maîtresse. Ce qui fait qu'entre deux, Sainte-Beuve, qui était Sainte-Beuve était le Bernard Pivot de l'époque. Donc, il avait une assiduité extraordinaire sur la littérature de son époque, et c'était un fin niais, un fin talent, et un esprit brillant. Ce qui fait que Sainte-Beuve n'a jamais voulu mettre en exergue Baudelaire, puisqu'il est considéré comme un concurrent qui avait eu la même maîtresse que lui. Voilà. C'est pour répondre à votre question sur Baudelaire et Sainte-Beuve et l'inimitié qui existe entre eux. Voilà. Je réserve. Mais elle est célèbre. Vous savez, pour comprendre un homme, il faut chercher la femme. Et à cette époque-là, les hommes plus j'étais célèbre, plus j'avais de femmes et de maîtresses, en quelque sorte. Donc, c'est un peu, ça rejoint un peu Victor Hugo de cette époque.
Peut-être bien sur ce beau tableau.
Oui.
Il n'y a pas beaucoup de femmes.
Le personnage de droite, c'est vrai qu'on le voit, il est coupé. Je peux remontrer la gravure. Voilà, on voit effectivement. Est-ce que le chien figure sur le tableau?
Oui, oui.
Je crois que ça a inscrit des racontes, donc il n'y a pas d'exister un portrait, mais non pas. Ça n'a même pas inscrit.
Le tableau?
Oui.
Oui, c'est celui. L'autre, ah, ça c'est la gravure. Le portrait. Ah, ça c'est le portrait de Mérion.
Mérion.
Là, il est peint par Fanon, mais il existe un portrait de Mérion peint par.
Oui, oui,
oui. Quant au dessinateur là, qui a fait le. Dont on a reproduit le dessin Narjo, etc., j'ai cherché, mais pas trouvé trace de. Pas trouvé d'indication sur lui.
Tu as cité en passant aussi le nom de Frédéric Dulin.
Oui, oui, oui. Alors j'en ignorais tout, mais c'est le volume Mémoire de la critique qui m'a éclairé sur lui.
À l'époque, j'avais cherché en vain d'autres choses, parce qu'on sait très peu de choses.
Très peu.
C'est quelqu'un qui appartenait à la Bohème, qui a fréquenté le musée, et puis qui a disparu. J'aimerais ajouter un tout dernier mot pour ne pas trop intervenir sur cette édition 68 des Fleurs du Mal. Est-ce que vous connaissez les deux premiers mots de cette édition de 1868 des Fleurs? Est-ce qu'une personne ici connaît les deux premiers mots? Les deux premiers mots de cette édition magnifique. Ben, ces deux premiers mots sont la sottise. Ça veut tout dire.
Le début du poème préface, voilà, c'est ça?
Exactement. Ouais. Vous avez absolument raison. La sottise d'erreur. C'était mis, pas par hasard, c'était une intelligence inouïe. J'en dis pas plus.
Ce sont les deux premiers mots de toutes les éditions.
Le projet de préface de Baudelaire.
Mais la préface met en lumière quelque chose. Mais seulement, il faut se creuser. La sottise et l'erreur. Oui, mais les deux mots qui commencent, c'est le sottise et l'erreur. C'est quand même, pour une œuvre posthume, une personne qui est Baudelaire décédée, on ne commence pas par ces deux mots-là. Je veux dire que ça ne va pas. Il y a une chose qui est encore plus hallucinante, j'ose pas la dire, mais est-ce que je vais la dire? Je ne sais pas. Qui vous transforme complètement. Est-ce que vous voulez la voir?
Oui,
oui. Bon, c'est le poème qui a le titre préface.
Oui, le poème a le titre préface.
Le pire.
C'est un passe au lecteur ou.
Préface tout court.
D'une édition à l'autre.
La suite d'erreur.
Qui a retenu le nom de préface?
Préface. C'est tout.
C'est
tout.
C'est
un paragraphe qui change
toujours. C'est l'édition possible.
C'est-à-dire ce qui a empêché que le texte de Gautier s'appelle préface.
Alors un dernier mot, parce que vous êtes gentil,
c'est déjà le dernier.
Baudelaire est décédé. Vous avez une magnifique. Est-ce que vous pouvez mettre à l'écran là, vous n'avez pas le dessin de Baudelaire à l'écran?
Si, si.
Par Bacon,
Ah, c'est pas Braquemont,
c'est
hein,
pas Braquemont, c'est Mérion.
C'est le Nargeau qu'on a.
Ah, alors il faut revenir, d'accord. Alors,
voilà.
Attendez.
Okay. Voilà. On va... Alors, justement, le problème se pose là. Encore un petit détail qui est très significatif et qui devrait, et ce sera ma conclusion. Voilà.
C'est le sujet du séminaire.
Voilà.
Oui.
Vous pensez au normal qu'on présente un écrivain décédé avec la main cachée sous le manteau? Est-il normal de présenter Baudelaire qui n'a plus de main? C'est une injure manifeste.
C'est
d'après une photographie. Il est présenté sans sa main. Un écrivain qui est présenté dans une œuvre posthume sans sa main, il y a une question quand même à se poser. Ne disons pas.
La main sur le cœur.
Alors en plus, si on ajoute l'erreur et la sottise, ça commence à se formaliser. Et après, si on rajoute des détails que je dirai plus tard, c'est de pire en pire. Donc c'est une question à laquelle vous pouvez réfléchir.
Quelqu'un veut ajouter quelque chose? Une ultime parole, je n'ose pas dire dernière. Non, le calendrier est en cours d'élaboration. Nous nous retrouverons sans doute au mois d'octobre, donc avec Baudelaire et son Cénacle. Nous vous enverrons le calendrier par mail, puis nous diffuserons sur Fabula. Voilà, vous aurez d'autres moyens, des moyens de le retrouver.
Vous êtes tous invités.
Bien. Merci beaucoup.
Merci.
Au revoir.